Albert Bataille, Causes criminelles et mondaines, Affaire Tremblier, l'homme sans tête de Buenos Aires, Douai, 28 février. Après 2 années, ou peu s'en faut, de détention préventive, Raoul Tremblier, auteur présumé du crime de Buenos Aires, comparaît aujourd'hui devant le jury du Nord. Il est impossible de se rendre compte de l'émotion soulevée dans la République argentine par cette affaire de l'homme coupé en morceaux, de l'homme sans tête, de l'hombre descuartizado, de l'hombre sin cabeza. Dans la soirée du 21 avril 1894, des passants trouvaient Calle Montevideo à Buenos Aires un énorme sac en serpillière dont le contenu répandait une odeur fétide. On porta le sac à la police. Il contenait un tronc humain saupoudré de sueur de bois et de gros sel. Et la même nuit, à quelque distance, quelques heures de là, près de la rue Montevideo, on découvrait un second sac renfermant les bras et les jambes. Ces horribles débris qui avaient été désarticulés et arrachés du tronc étaient enveloppés de linge ensanglanté, de débris de journaux, de plumes et de paquets de laine qui semblaient provenir d'un matelas. L'assassin, pour arrêter le sang et combattre l'odeur cadavérique qui se dégageait de ces misérables restes, les avait également saupoudrés de sel et de sueur de bois. Jusqu'au 15 mai, la police s'épuisa en vaines recherches. Ce jour-là, des gamins qui cherchaient des nids dans les broussailles au milieu des marécages qui avoisinent le port de Buenos Aires heurtèrent du pied un troisième sac beaucoup plus petit que les deux premiers. Au milieu de ce sac, une déchirure assez large leur permit d'apercevoir un œil. Terrifiés, les enfants appelèrent un sergent de ville qui porta le sac au bureau de police. On l'ouvrit, il refermait une tête humaine, et en rapprochant cette tête du tronc conservé au laboratoire de chimie, il fut facile de convaincre que s'y adaptait parfaitement. Le docteur Gallego, juge d'instruction, fit aussitôt photographier cette tête. Il la fit mouler, il la fit peindre. Les journaux argentins la reproduisirent à profusion. Le gouvernement, qui avait promis une prime de 25 000 francs à quiconque lui apporterait la tête de la victime, interrogea plus de 300 tailleurs et près de 200 filles galantes pour essayer de découvrir l'origine des linges qui enveloppaient ces débris et tâcher d'établir l'identité de la victime. Ces efforts ne restèrent pas infructueux. L'homme coupé en morceaux portait 2 dents postiches. Un Français habitant Buenos Aires reconnut à ce signalement un de ses compatriotes, originaire des Landes, un nommé Farbos, qui avait débarqué le 20 avril du transport L'Orénoque et qu'on n'avait plus revu. Ce Farbos exerçait une industrie aussi fructueuse que singulière. Il faisait le commerce des sous argentins. Ancien facteur des postes, mais possesseur d'une petite fortune, il avait donné sa démission en 1891, réalisé tout son avoir pour s'associer avec un nommé Tremblier et entreprendre cette contrebande de la monnaie du billon argentine importée secrètement en France. Il faut expliquer ici que l'or français fait prime, et une forte prime dans toute l'Amérique du Sud. Avec 100 francs d'or, on a près de 300 francs de pièces de 2 sous. Le change en vaut la peine, n'est-ce pas? Le mécanisme de l'opération consiste simplement à changer son or à Buenos Aires, à blinder de pièces de 2 sous les malles à double paroi et à les introduire en France, où toute une association de fraudeurs les achète et les écoule dans le public. Farbos étant mort, son associé Tremblier avait disparu. Il s'était embarqué précipitamment pour la France quelques jours après la découverte des deux premiers sacs qui renfermaient les restes mutilés de son ancien ami. Il était certain que Tremblier était l'assassin. Grâce à la diligence de la police argentine, Tremblier, signalé par télégramme aux autorités françaises, fut arrêté à Dunkerque au moment où il débarquait. C'est cet homme qui comparaît aujourd'hui devant la cour d'assises du Nord, après 2 années d'une instruction qui a réuni contre lui un faisceau formidable de preuves. On va voir, par l'interrogatoire net et précis de M. le Président Vibert, quelle longue préméditation, quelles précautions étonnantes avaient précédé l'assassinat. Raoul Tremblier est un petit homme sec, au teint olivâtre, portant une barbiche de chasseur à pied. L'œil est fuyant, la physionomie louche, on dirait d'une hyène prise au piège. Originaire de Bordeaux, ancien commis de nouveauté, puis vaguement courtier en parfumerie en France et à Buenos Aires, Tremblier n'exerçait depuis 5 ou 6 ans d'autres métiers que celui de contrebandier en sous. Il avait fait, soit seul, soit avec Farbos, d'incessants voyages dans la République d'Argentine, rapportant chaque fois d'énormes provisions de sous habilement plaquées dans de nombreuses malles à double tour. « Comment avez-vous connu Farbos ?» lui demande M. le Président Vibert. « Je l'ai connu à Bordeaux, dans un cabaret où on négociait la revente des sous-argentins. L'opération lui plut, alors il me proposa une association. Nous fîmes ensemble, en 1893, un premier voyage à Buenos Aires. Alléché par le profit de cette opération, Farbos, de retour en France, réalisa 10 000 francs pour se livrer sur une plus grande échelle à la vente des sous. Vous étiez retourné seul à Buenos Aires, où vous l'attendiez. Vous logez alors chez un de vos compatriotes, M. Courtade, qui exerce à Buenos Aires la profession d'arçonnier. C'est également chez lui que Farbos avait pris gîte lors de son premier voyage. Farbos était embarqué le 20 mai 1894 pour la République argentine. C'est vous qui l'aviez engagé à entreprendre un second voyage dont il ne devait pas revenir. On l'attendait le 16 avril par l'Orénoque, mais le navire subit une quarantaine de 4 jours et Farbos ne débarqua que le 20 avril. Vous aviez dissimulé soigneusement son arrivée à votre ami Courtade. Pourquoi ? Mais il ne voulait plus descendre chez lui. Pendant sa quarantaine, Farbos avait trouvé moyen de vous écrire pour vous annoncer son arrivée. Madame Courtade était présente quand vous avez reçu cette lettre. « Tiens, vous dit-elle, on dirait l'écriture de Farbos. »« Oui, lui avez-vous répondu. Il m'écrit de France qu'il sera ici dans 1 ou 2 mois. »« Comment ?» répliqua Madame Courtade. « Mais la lettre porte un timbre argentin. »« Et c'est sans doute, lui répondez-vous, qu'il aura confié sa lettre à un des passagers de l'Orénoque qui porte sa quarantaine. » Ah si, alors, vous étiez décidé à cacher à tout prix son arrivée. Ce même jour, 20 avril 1894, Tremblier quittait le logement qu'il occupait chez son compatriote en lui racontant qu'il venait de s'associer avec un ami pour l'exploitation d'une maison de jeux clandestine. Il avait même acheté un tapis vert qui figure sur la table des pièces à conviction et qui sert au jeu des 36 nations. C'est une sorte de baraque qui s'applique sur un billard et qui porte, moulé en creux, les drapeaux de 36 nations. Cette histoire de jeu clandestin était inventée de toutes pièces par Tremblier. Jamais il n'avait songé à exploiter le jeu des 36 nations. Et son tapis n'a jamais servi. C'était un prétexte qu'il avait trouvé pour disparaître, le président. Vous aviez loué rue Cangelo, au rez-de-chaussée, sous le faux nom de Pedro Tabarros, une chambre garnie, isolée du reste de l'abdication. C'est là que vous attendiez Farbos. Vous aviez payé un mois d'avance et vous aviez prévenu le propriétaire que vous attendiez votre frère qui habitait les environs de Buenos Aires, qui viendrait sous peu vous rendre visite, mais qui ne resterait qu'un seul jour. Le jour du débarquement, vous allez attendre Farbos sur le port. Vous l'emmenez chez vous et jamais on ne l'a revu vivant. Mouvement. Et Monsieur le Président vit maire et numère ici les charges accablantes qui s'amoncellent sur la tête de Tremblier. Quand, de retour en France, vous avez été arrêté à bord du bateau qui vous amenait, on a saisi vos malles qui renfermaient de nombreux vêtements. C'étaient les vêtements de Farbos, c'était son linge. Madame Farbos, mandée de Bordeaux par le juge d'instruction, les a formellement reconnus. Elle a reconnu son alliance que vous aviez cachée au fond d'une petite caisse. Elle a reconnu 2 pièces de 100 francs que son mari portait constamment sur lui. Et ce n'est pas tout. En dehors des 3 000 francs de sous-argentin que vous rapportiez dans le double fond de vos 17 malles, vous étiez possesseur de 6 500 francs en or français. Or, Farbos s'était embarqué pour Buenos Aires avec environ 8 000 francs en louis. Ainsi, vous aviez les vêtements, le linge, l'alliance, l'argent du mort. Seulement, vous aviez démarqué le linge et coupé les pattes de chemise qui portaient les initiales de Farbos. Vous aviez quitté Buenos Aires après avoir fait couper votre barbe et changé complètement d'habit. Et le lendemain de l'arrivée de Farbos, vous aviez quitté précipitamment la chambre isolée de la rue Cangallo, refusant même de reprendre 25 pièces que vous offrait votre propriétaire pour le revenu du mois que vous aviez payé d'avance. Vous étiez retourné chez votre ami Courtade, qui fut très honoré de vous voir laver mystérieusement du linge. Oh, je faisais moi-même ma lessive pour économie avant de partir pour la France. Tremblier perd de plus en plus son assurance. Il tremble, il ne sait plus où porter ses yeux. À chaque minute, on le croit sur le point d'avouer. Monsieur le Président Weber lui pose ici une question qui va achever de le démonter. Enfin, c'est bien chez vous, dans votre petite chambre isolée, que vous avez conduit Farbos. Oui, monsieur. Eh bien, qu'en est-il advenu? Il est sorti seul dans la soirée et je ne l'ai plus revu. Et quand j'entendis crier le lendemain dans les rues et les journaux qui annonçaient la découverte de l'homme sans tête, je supposais que cet homme était peut-être Farbos et qu'il avait dû tomber dans quelque guet-apens. Et vous n'avez pas prévenu la police. Et vous n'êtes pas allé le reconnaître. Vous avez fui en portant ses vêtements et son linge. J'ai pris peur, craignant d'être soupçonné. Rumeur. Non, vous embarquez et en route, vous envoyez le Tenerife à votre ami Courtade une lettre dans laquelle vous lui demandez si Farbos est arrivé à Buenos Aires. Vous saviez bien qu'il y était arrivé puisqu'il avait disparu de chez vous. Vous emportiez son argent, son linge, jusqu'à son alliance. Avouez donc que vous l'avez assassiné pour lui voler sa fortune. Tremblier baisse la tête dans une attitude accablée. Vous savez ce que l'on a découvert sur le parquet de la chambre? Des taches de sang. Vous savez que le cadavre était entouré de crin et de laine. Or, vous aviez éventré votre matelas, qui contient un mélange de crin et de laine, et que vous aviez grossièrement recousu. Arrivons à la préméditation. Le 19 avril, veille du débarquement de Farbos, vous achetez chez un épicier 5 gros kilos de sel. Vous procurez une énorme quantité de sciure de bois. Les nœuds des cordes qui lient le cadavre sont identiques aux nœuds des cordes qui servent au mâle. Un des chiffons du linge qui enveloppe le corps porte les initiales BD. On cherche et l'on apprend qu'une dame bande de Durand, qui a fait en même temps que vous un voyage à Buenos Aires, a été volée d'un drap qui porte ses mêmes initiales. Un autre morceau de linge porte les initiales JP. On cherche encore et l'on apprend qu'une dame, Jeanne Pinault, vous a confié sur le bateau sa petite fille qu'elle envoie à Buenos Aires et que vous avez volé, et vous aviez volé son drap portant les initiales JP. Mais voici la charge écrasante. Un des bras de l'infortuné Farbos était enveloppé dans un débris de journal, La Prensa de Buenos Aires. On fouille dans vos malles et l'on y trouve quoi ? L'autre morceau de ce même journal. Vive sensation ! Et M. le Président Vibert fait passer sous les yeux des jurés les deux morceaux de La Prensa. L'épreuve est concluante. Les deux parties du journal, celle qui enveloppait le cadavre et celle qui a été saisie dans la malle de Tremblier, s'adaptent exactement. C'est l'évidence. Quelques jours avant l'arrivée de Farbos, vous achetez un solide poignard d'acier trempé. Vous faites remettre par un ouvrier de votre ami Courtade un sabre recourbé à poignée de cuivre que vous aiguisez aussitôt avec le plus grand soin. Ce sabre, ce poignard, on les a saisis dans vos malles. Qu'en faisiez-vous ? C'était pour ma panoplie. Le poignard, c'était pour tuer Farbos. Le sabre, c'était pour dépecer son cadavre. Avouez donc. Les jurés auront peut-être pitié de vous. Monsieur le Président Vibert fait descendre la Tremblier de son bande accusée. Les gendarmes le conduisent tout tremblant devant la table des pièces à conviction. Le président des assises lui montre le sabre, une sorte de coupe-chou de garde champêtre à poignée de cuivre et à lame recourbée à l'orientale. Il lui montre le poignard, une arme terrible, solidement fixée à un manche grossier en bois noir. Puis il fait ouvrir les malles qui contiennent les horribles guenilles ensanglantées dont le cadavre était enveloppé. Il lui fait voir les marques révélatrices qu'il a oublié d'enlever. « Avouez donc !» lui dit-il une dernière fois. Tremblier hésite. Il regarde autour de lui d'un air affolé. Il tremble de tous ses membres. Un rictus horrible se dessine autour des mâchoires et d'une voix sourde, presque éteinte, il balbutie « Je suis innocent, absolument innocent !» Avinal a dit « N'avouez jamais !» Les témoins sont entendus. C'est d'abord le commissaire central de Dunkerque qui a arrêté Tremblier. Puis ce sont les témoins venus de Buenos Aires. C'est l'arsenier Courtade qui raconte tout ce que l'interrogatoire nous a déjà appris de la disparition subite de son locataire la veille du crime et de son étrange retour le lendemain du crime. Quand Tremblier eut appris la découverte du cadavre, il manifesta une véritable terreur. « On fouille tout le monde !» disait-il, et il se hâta de s'embarquer pour le premier bateau. C'est Joseph Bernard, l'ouvrier de Courtade, qui a fabriqué le poignard pour le comte de Tremblier et qui lui a vendu le sabre. C'est un autre Français, M. de Chalensoum, qui l'a reconnu sur le quai de débarquement au moment où il venait attendre l'infortuné Farbos. C'est enfin Mme Riconi, qui lui a loué la petite chambre isolée où le crime a été commis et qu'il a quitté précipitamment après avoir fait disparaître le prétendu frère qui l'attendait et qui ne devait rester qu'un jour. À demain, la fin des témoignages, le réquisitoire de M. l'avocat général, teinturier, et la plaidoirie de M. Arthu, maître Arthu, le Lachaud du Nord, dont toute l'éloquence ne pourra triompher dans cette cause désespérée. Douai, 29 février. Aujourd'hui, l'assassin de Farbos paraît avoir abandonné la partie. Il ne répond plus. Il a renoncé à lutter contre l'évidence. La tête basse, l'œil morne et éteint, Tremblier n'attend plus rien que des hasards du jury. L'audition des témoins s'achève sans incident. Monsieur le président Vimer n'a pas hésité à faire venir de Buenos Aires les médecins experts et les compagnons de Tremblier, qui seuls pouvaient jeter quelques lumières sur ce crime lointain. Le voyage de chacun d'eux coûte bien 3 ou 4 000 francs au trésor, mais l'essentiel est d'aboutir. Et quelle ne fut pas ma stupéfaction, il y a 3 mois, quand j'arrivais à Bourges pour le procès du marquis de Nèves. La chancellerie, par une misérable économie, n'avait pas cité un seul témoin d'Italie. Ni les cochers de Sorrente, qui avaient rencontré le marquis de Nèves, traînant après lui tout le jour le long du gouffre ce malheureux petit Menaldo, ni les pensionnaires des maisons closes de Castellammare, chez lesquels, comme un criminel vulgaire, le marquis de Nèves était allé chercher l'oubli après l'accident. Disons, l'accident, n'est-ce pas ? Il a été acquitté. On a vu les conséquences de cette lamentable parcimonie. Le débat dévia, les jurés finirent par s'exaspérer d'entendre pendant 8 jours 120 témoins qui leur parlaient de l'abbé Rousselot et pas un seul qui leur parla de l'assassinat de Menaldo. Ces grands débats aboutirent à une sorte de mystification judiciaire et le marquis de Nèves peut aujourd'hui reprendre ses leçons de mathématiques. Cet effondrement de l'accusation dans l'affaire de Nèves semble avoir du moins servi de leçon au ministère de la Justice dans l'affaire Tremblier. Le docteur Gallagos, le juge d'instruction de Buenos Aires, n'avait rien épargné pour découvrir l'assassin de Farbos. On peut dire que l'information argentine fut dirigée avec une patience et une sagacité admirables. Non seulement le gouvernement promit une prime de 25 000 francs en or à celui qui découvrait la tête de Farbos, mais quand cette tête fut découverte, on la moula, on la fit reproduire par la photographie et la peinture. On entendit plus d'un millier de témoins pour essayer de reconstituer l'identité du cadavre. On fit afficher dans toute la ville le fac-similé des marques des linges qui enveloppaient le corps. Tous les habitants de la République d'Argentine furent invités, par ordre de police, à venir reconnaître à la morgue la tête du mystérieux décapité. Un matin, le juge d'instruction ordonna une perquisition générale chez tous les habitants de Buenos Aires, qui compte plus de 600 000 âmes. Les 40 commissaires de police se partagèrent la besogne. Les égouts furent minutieusement visités, les fosses d'aisance vidées. Et quand on songe que Buenos Aires s'étend sur une surface presque double de celle de Paris, sur une longueur de plus de 16 kilomètres, on peut se rendre compte du ralentissement et du retentissement du crime et du zèle que la justice et la police argentine ont mis à le découvrir, malgré l'antagonisme classique de ces deux autorités représentant à Buenos Aires par le gestion Gallegos et le général préfet de police Campos. La justice française s'est piquée au jeu. Elle a fait venir de Buenos Aires non seulement des témoins ordinaires comme l'argentier Larsonnier Courtade qui logeait Tremblier, comme Alain Riconi qui loua bien innocemment à l'assassin la chambre du crime, mais les professeurs de l'université qui ont procédé aux expertises médicales, chirurgicales et chimiques. Monsieur le conseiller Wilbert, en termes très simples, mais d'une rare élévation, les remercia du sacrifice qu'ils font aujourd'hui en abandonnant leurs études et leur clientèle pour venir apporter leur concours à la police française. C'est monsieur le docteur Cinealos qui a procédé à l'autopsie de Fabros et qui estime que ce malheureux a dû être assommé pendant qu'il était accroupi devant ses mâles, puis égorgé vivant. Le crâne portait la trace d'un enfoncement produit par un coup formidable. Quant au sang, Tremblier l'a étanché dans la sueur de bois dont il avait fait si ample provision et recueilli probablement dans un seau. Le sang n'en avait pas moins giclé sur le mur de la chambre. Le docteur Pireja, expert critique chimiste, commis par le parquet de Buenos Aires, a retrouvé sur le papier des traces accusatrices et qui ne laissent plus place à aucun doute. Le docteur Roses, professeur de médecine en chef des travaux pratiqués à l'Université de Buenos Aires, sert d'interprète à ses deux éminents collègues. Le parquet a même fait venir de la République argentine un jeune téléphoniste nommé Marin qui, le lendemain même de la disparition de Farbos, a rencontré dans la rue de Montevideo, entre 11h30 et minuit, un individu encapuchonné et porteur d'un sac dans lequel il croit reconnaître Tremblier. Après lui, c'est Madame Pinault, une Française établie à Buenos Aires, qui ayant appris par les affiches apposées sur les murs de la ville qu'une des serviettes qui enveloppait le cadavre portait les initiales JP, se rendit au bureau de police et révéla que, pendant un voyage qu'elle avait fait sur le même bateau que Tremblier, des serviettes semblables et portant la même marque lui avaient été volées. Madame Pinault apporta à l'audience des serviettes identiques. Non seulement elle porte les mêmes initiales, mais encore la même marque de blanchisseuse, un Z retourné. Même reconnaissance d'initiales de la part de Madame Boris Durand sur des serviettes retrouvées depuis autour du cadavre de Farbos et qui ont été également volées sur le bateau par Tremblier. Jamais je n'ai vu pareil luxe de preuves. La dernière déposition est celle de la veuve du malheureux Farbos. C'est une femme d'une quarantaine d'années, au trait énergique, tout enveloppée de ses voiles de deuil. « Misérable !» s'écria-t-elle en jetant un regard de haine à Tremblier. « Madame, interrompit le président Vibert, je vous en prie, tout le monde ici compatit à votre douleur, mais cet homme est devant ses juges. C'est à eux et non à vous de faire justice. Soyez tranquille. » Madame Farbos, qui pendant l'instruction s'était à deux reprises précipitée sur l'assassin de son mari en cherchant à l'étrangler, contient cette fois son indignation. Elle raconte brièvement l'histoire de Farbos, les sollicitations de Tremblier pour le déterminer à réunir une dizaine de mille francs et à s'associer avec lui pour le commerce des sous argentins. Par une sorte de pressentiment, Madame Farbos avait fait l'impossible pour empêcher son mari d'entreprendre ce dernier voyage dont il ne devait pas revenir. Après lui avoir écrit inutilement à Buenos Aires, la pauvre femme le croyait disparu quand elle reçut un télégramme de Dunkerque. C'était le juge d'instruction qui la convoquait en toute hâte pour la confronter avec Tremblier et lui représenter l'alliance, l'or, les vêtements, le linge de son mari. Tremblier avait enlevé les marques des chemises, les initiales du chapeau. Il avait chaussé les bottines neuves du mort. Jamais accusé n'a accumulé sur sa tête autant de preuves écrasantes. À 3 heures, monsieur l'avocat général teinturier prend la parole et requiert énergiquement contre Tremblier la peine de mort. À demain dimanche, la plaidoirie de maître Hattu et le verdict. Douai, 1er mars. Cette dernière audience du procès Tremblier avait été réservée tout entière pour la plaidoirie de maître Hattu. Le célèbre avocat, un des plus vigoureux lutteurs de nos cours d'assises, s'est attaqué avec une vaillance et une habileté incomparables à la tâche écrasante qu'il avait entreprise. Mais toi, as-tu pendant 5 heures d'horloge, sans que son énergie ait fléchi un seul instant, discute pied à pied l'accusation. Il ajoute que si c'est Tremblier qui a assassiné Farbos, il a eu certainement des complices. Il y avait à Buenos Aires, au moment du crime, un Français nommé Boistel, qui était arrivé dans cette ville en même temps que la victime, par le même bateau Orénoque, et auquel le malheureux Farbos avait confié qu'il apportait 7 000 francs pour faire le commerce des sous. Or, le jour de l'assassinat, vers 7 heures du soir, une voisine de Raoul Tremblier entendit une femme qui frappait à la vitre de la petite chambre mystérieuse qu'avait louée l'accusé rue Cangallo. Tremblier soutient que Farbos est parti quelques instants après avec cette femme pour une visite galante dont il ne devait pas revenir. Mais toi, as-tu n'est pas loin de supposer que cette femme était une Française nommée Julie Desprat, que Farbos avait connue sans doute lors d'un précédent voyage et qui était devenue la maîtresse de Boissel. Et tous deux l'auraient attiré dans un guet-apens. Quelques jours après l'assassinat, Boistel et sa maîtresse achetèrent Reconquista à Buenos Aires un fonds de marchand de vin qu'ils payèrent comptant 2 000 francs. La police argentine, qui les mit en état d'arrestation, saisit chez eux, dans le tiroir d'un lavabo, 2 grands coutelas, des tenailles. Et quand on demanda à Boistel, qui avait fait le voyage avec Farbos, s'il l'avait jamais connu, il répondit négativement. Ce n'est que plus tard, devant le juge d'instruction, qu'il revint sur cette dénégation singulière et qu'il fut remis en liberté. Le défenseur se demande si ce Boistel, qui avait exercé en France sa profession de boucher et qui connaissait Tremblier, n'a pas joué un rôle, et le rôle principal, dans le dépeçage du cadavre. Il ajoute que la tête de Farbos, retrouvée le 15 mai 1894 seulement, n'a pu certainement être jetée par Tremblier, qui depuis le 9 mai était en mer pour retourner en France. Mais Doatus s'étonne que l'instruction ait relâché Boistel et prend vivement à partie la police argentine, dont les démêlés avec le parquet de Buenos Aires ont beaucoup nui, dit-il, à la marge de l'information. Et c'est à tel point, ajoute Maître Hattu, que le juge d'instruction, Gleffer Corot, finit par faire arrêter le préfet de police de Buenos Aires, le général Campos, pour excès de pouvoir. Il arrêtait dans la salle. Malgré le doute que cette plaidoirie de Maître Hattu avait essayé de jeter dans l'esprit du jury, la délibération n'a pas duré 5 minutes. Reconnu coupable sans circonstance atténuante de l'assassinat de Farbos, Raoul Tremblier est condamné à la peine de mort. « Je suis innocent !» balbutie-t-il en devenant horriblement pâle. Monsieur le conseiller Vibert, qui a dirigé ces difficiles débats avec tant de distinction et une si remarquable clarté, ordonne que l'exécution a lieu à Douai. Une foule énorme attend le condamné à la sortie du palais et escorte, en poussant des cris de mort, la voiture cellulaire qui le reconduit à la prison. Post-scriptum. L'arrêt fut cassé pour vice de forme et Tremblier fut renvoyé devant le jury du Pas-de-Calais qui le condamna de nouveau à la peine de mort. Malgré ce double verdict, le président de la République lui a fait grâce. Tremblier a bénéficié du lointain. On n'exécute pas pour un crime commis dans la République argentine. Le doute et le mystère croissent en relation, raison directe, du carré des distances. Surtout quand l'accusé reste fidèle au vieux précepte d'Avilin, n'avouez jamais.